plateforme numérique.
Sur VOA Afrique.
I have a dream. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique Éco édition de ce vendredi 12 novembre 2021. Vous êtes bien sûr sur VOA Afrique que nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Et ce soir, c'est une émission un peu spéciale de l'Amérique Éco que nous vous proposons. Il s'agira en quelque sorte d'une causerie avec les vétérans ou si vous préférez, les anciens combattants d'origine africaine. La journée chez les anciens combattants est généralement l'occasion de remercier ceux qui ont servi dans les forces armées américaines. Selon le journal Alabama, ses origines remontent à la fin de la Première Guerre mondiale. Le 11 novembre 1918, un armistice entre les nations alliées dirigé par les États-Unis et l'Allemagne est entré en vigueur à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. Bien que la guerre n'ait été officiellement terminée que lorsque le traité de Versailles a été signé 7 mois plus tard, le 11 novembre est reconnu comme la fin de la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, selon l'histoire de l'administration des anciens combattants. En novembre 1919, le président Woodrow Wilson a proclamé le 11 novembre comme la première commémoration de ce qui était alors connu sous le nom de jour de l'armistice. Le 4 juin 1926, le Congrès américain reconnaît officiellement la journée avec une résolution. Cette année, le 11 novembre marque aussi le 100e anniversaire du cimetière national d'Arlington où des cérémonies spéciales sont organisées chaque année. Pour discuter de tout cela, nous avons comme invité à Houston, au Texas, Raoul Kedi. Il est originaire du Cameroun, entrepreneur, speaker et patron d'entreprise. Raoul Kedi, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir John, merci pour l'invitation.
Merci d'être parmi nous. Komi Afeche est originaire du Togo. Il est officier de l'armée américaine, écrivain et ingénieur informatique. Komi Afeche, bonsoir.
Bonsoir John et salut à tous ceux qui vont nous écouter plus tard.
Merci pour votre disponibilité. Notre dernier invité est à New York. Nous avons Ouédraogo Semedjakus. Il est originaire du Burkina Faso. Il est vétéran et étudiant. Jakus Ouédraogo Seni, bonjour.
Bonjour à tous. Bonjour John et bonjour à tous ceux qui vont nous écouter, tous les auditeurs. Merci pour l'invitation.
Ravi de vous avoir dans l'Amérique et vous. On va commencer, chers invités. Comme le dit la formule consacrée ici aux États-Unis, permettez que je vous dise merci pour les services rendus à la nation. On va commencer par Raoul Kedi. Vous êtes originaire du Cameroun. Quand êtes-vous arrivé aux États-Unis et qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans l'armée?
Je suis arrivé aux États-Unis en décembre 2008, en pleine crise. À ce moment, les États-Unis traversaient la crise économique et avec l'ancien président, le président de l'époque, George Bush. Et je me rappelle déjà, j'ai voyagé par la loterie américaine, la Green Card. Et quand tu arrives aux États-Unis, tu envoies souvent une lettre avec un billet de 2 dollars. Je me rappelle, j'ai reçu ça. Et ils m'ont proposé si j'étais intéressé par leur service. La première fois, j'ai refusé. Je n'étais pas intéressé parce que ce n'était pas vraiment mon truc. Mais déjà, j'avais un papa quittant le pays qui avait voulu me faire entrer dans l'armée au Cameroun. J'ai refusé. Bon, quelques temps après, j'avais une maman ici aux États-Unis qui me dit, je pense qu'il faudrait être ouvert de voir comment est-ce que tu peux saisir cette opportunité. Et finalement, 9 mois après, après être arrivé aux États-Unis, je décide donc de rappeler le recruteur qui vient me prendre. Je me présente à son bureau et je prends les premiers tests. On fait les tests, je passe les tests et je vais à le medical, le MEPS, qui a le côté médical des tests, ce que je passe.
Alors, on va parler de votre parcours bien plus tard au cours de cette émission. Comme il a fait chier, et vous, quelle a été votre motivation pour entrer dans l'armée?
Oui, John, merci encore. Moi, ma motivation était simple. J'étais aux États-Unis depuis 2004. J'étais arrivé comme étudiant et ensuite, j'ai eu de sérieux problèmes de papier jusqu'à ce que j'ai obtenu ma green card provisoire en 2010. Donc, je voulais obtenir la nationalité rapidement. Et c'est en étant conducteur de taxi que j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de l'armée. C'est un blanc qui était un vétéran aussi. Donc, je l'avais pris dans un hôtel que je lui déposais à l'aéroport. Donc, il me posait quelques questions sur moi. Je lui ai expliqué que oui, je suis immigrant, je suis là, je bosse, mais les choses ne vont pas. Il m'a dit, bon, écoute, l'armée peut t'offrir la nationalité rapidement. Et aussi, tu peux avoir l'opportunité d'aller à l'université sans payer les frais que les autres paient. J'ai dit alors, c'est une belle opportunité. Donc voilà, encore quelques mois après, je bossais toujours, faisais des trucs, des petits boulots. Et je me suis dit, bon, bref, je vais suivre ces pas-là. Et c'est comme ça que je suis entré vers un recruteur. Et la procédure s'est bien passée. Et depuis 11 ans, je suis dans l'armée, ça.
Ouedraogo Semiliakus, comment est né votre désir de joindre les rangs de l'armée américaine?
Alors, ce désir est né lorsque je suis venu aux États-Unis en novembre 2011 et j'étais à New York. Et quand tu viens d'arriver, c'est pas facile, tu comprends pas la langue. Donc, on faisait les petits boulots, laver les assiettes, les dishwashers dans les restaurants, des boulots qui sont un peu physiques. Et alors, en ce temps, j'avais un roommate qui était un peu plus âgé que moi. Et lui m'a dit que cette vie-là, c'est pas facile, mais il avait entendu qu'avec l'armée, on pouvait avoir une vue meilleure. Bon, mais moi, vraiment, j'étais pas pour l'armée parce que je me disais, parce que c'est quoi l'esprit qu'on avait quand tu joins l'armée, c'est les Africains qu'on amène au front, tu peux mourir. C'était un peu la vision, c'est l'image que j'avais de l'armée américaine. Mais au finish, le gars qui était plus âgé que moi, puisque moi, j'étais mieux en forme que lui, et bon, il a reçu son test et tout. Et lorsqu'il a reçu le test, il allait faire le training, il est venu et tout. Bon, là, ça m'a motivé maintenant. Et il m'a dit, non, c'est pas ce que tu penses. Voilà, il m'a donné plus d'infos. Alors, j'ai dit, si c'est ça, effectivement, comme on est en train de... C'est comme si on n'a jamais été à l'école quand tu viens aux États-Unis. Si, on a des diplômes de l'Afrique, mais ça ne sait pas. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Alors, je vais essayer, effectivement, je prends le test et tout et tout. Et bon, on joint l'armée. Et puis, bon, ça va. Voilà, au moins, c'est avec ça. Bon, effectivement, avec ça, on avait la possibilité d'avoir la nationalité très rapidement. Et puis aussi pour l'école et tout. Et bon, en résumé, c'était juste, comme on le dit, on a joué l'armée pour se chercher. Voilà, c'est un peu ça pour avoir une vie meilleure. Merci.
Alors, pour avoir une vie meilleure, il faut aller au front. On vous en parlait tout à l'heure. Évoquons tout de suite le sujet avec Raoul Kedi. Parlons de votre déploiement. Vous avez été en Irak en 2011. Comment est-ce que ça se passe? Vous vous portez volontaire où vous êtes sélectionné, comment ça se passe? Et une fois sur le champ de guerre en Irak, comment les choses se déroulent pour vous?
Déjà, pour ajouter à ce que les autres ont dit, je me rappelle, je faisais aussi des petits boulots et puis j'étais tenté par l'armée. C'était misère, si tu en as l'armée, tu vas mourir, on va t'envoyer en guerre, tu vas mourir, blablabla. Mais moi, j'avais l'habitude de dire que ben, ça va même tous les petits boulots là que tu vas toujours mourir ici. Donc, allez, moi, je vais aller de l'autre côté.
Voilà.
Donc, ouais, je suis allé en Irak. Je me rappelle, je suis allé en formation en 2010. Janvier 2010, j'ai fini la première formation en avril 2010. Je suis allé en formation parce que je suis logisticien. Chacun a un boulot dans l'armée, comme vous le connaissez.
Tout à fait.
Et, d'avril 2010 à juin 2010, j'ai fini ma formation en Virginie. Et après, je rentre dans le Texas. En ce moment, j'étais dans le National Guard, qui était pour l'État du Texas. On m'envoie en mission à la frontière. À l'époque, le président Obama avait déployé 1500 troupes au niveau de la frontière du Texas avec les États-Unis. Parce qu'il y avait beaucoup de trafic d'orgue, immigration et tout le reste. Je suis parmi les 1500 qui vont faire cette mission au niveau de McAllen, Rio Grande, où on essaie de repousser les trafiquants de drogue, le cartel, les États et aussi certains immigrants qui passent par le Mexique pour entrer. Je fais pratiquement 3 mois dans cette mission avant d'être détaché maintenant en plein temps. Et donc, je quitte de là. Je quitte le Texas en janvier 2011 où je suis affecté à Fort Worth et dans le Kansas. J'arrive à ma base. Je me rappelle le premier jour, j'arrive dans ma base. On m'attache à une base qui doit aller, je me rappelle, c'était d'abord en Afghanistan, qui était censé aller en Afghanistan le 15 mars. Ce n'est pas toi qui choisis si on va t'affecter. Il y a des bases qui sont déjà assignées pour aller en Irak ou en Afghanistan. Et puis, en fonction de ton métier et de la demande, c'est donc là où on attache chaque nouvel employé. Et donc, quand j'arrive en janvier, je me rappelle exactement le 18 janvier 2011, on me dit, tu vas aller en Afghanistan le 15 mars. Bon, j'étais pas très fier. Pourquoi? Parce que, comme je dis, j'ai joué l'armée aux États-Unis, ça faisait à peine 9 mois. Et j'ai fêté ma première année aux États-Unis, mon anniversaire aux États-Unis étant dans l'armée. Du coup, j'avais pas de permis de conduire. Je parlais pas vraiment l'anglais parce que même en formation, j'avais beaucoup de difficultés à cause de la langue. Je parlais pas vraiment anglais. Donc, quand ils me disent, tu dois aller en Afghanistan le 15 mars, je suis pas trop fier parce que je me dis, j'ai besoin un peu de faire mon intégration. J'ai besoin d'avoir un permis de conduire et tout le reste, blablabla. Bon, finalement, on revient après, ils me changent, ils m'envoient dans une autre base. On me dit, non, tu vas aller dans une autre base. Et avec cette base, on me donne une autre mission qui va en Irak le 2 août 2011. Ce qui m'arrange. J'étais vraiment fier, je vais pas vous mentir. Parce que j'étais fier, pourquoi? Parce que je me rappelle l'un des recruteurs m'avait dit, si tu vas dans l'armée et que tu sors ayant fait la guerre, et si tu reviens vivant, bien sûr, ça sera bon pour toi. Et je pense que si tu as l'opportunité, il faut aller. Et puis j'étais aussi curieux. Donc du coup, je vais en Irak. C'est comme ça que je vais en Irak le 2 juin 2011, avec une autre mission de 12 mois. Mais notre mission, c'était de faire sortir les équipements de l'Irak, assurer une bonne sortie. Sous le président Bush, ils avaient signé de retirer tous les troupes de l'Irak au plus tard le 31 décembre 2011. Et le président Obama essaie de renégocier le truc, ce qui ne marche pas. Donc finalement, quand nous on va en Irak, on essaie de nettoyer tout. On reste en Irak de juin 2011 à décembre 2011. Et puis on va au Koweït, où on reste au Koweït pendant un bon bout de temps. Mais pour ajouter aussi, j'aime dire aux gens aujourd'hui, la meilleure décision que j'ai faite quand je suis arrivé aux États-Unis, c'était de joindre l'armée. S'il y avait à refaire, je n'aurais pas attendu 9 mois aux États-Unis pour entrer. C'est que dès que j'aurais atterri, mon avion aurait atterri aux États-Unis, je serais reparti. Pourquoi je dis ça? Parce que jusqu'à aujourd'hui, je vois beaucoup, j'aime beaucoup ce bénéfice. Avoir fait l'armée, j'ai beaucoup appris.
On parlera des bénéfices ou des avantages tout à l'heure. Ouédraogo Sénéjacus, vous avez été déployé en Afghanistan et au Koweït. Comment ça s'est passé pour vous?
Ok, j'ai été déployé en Afghanistan et puis au Koweït. Disons que le déploiement même était, la direction c'était sur l'Afghanistan. Mais nous étions quand même au Koweït, c'est de là-bas que nous faisons nos missions. Bon, mais pour moi c'était vraiment ma première expérience parce que je suis allé en déploiement, moi c'était du 15 juin, c'était 9 mois au total, c'était autour de 15 juin 2015 et nous sommes revenus en mars 2016. Mais c'était vraiment compliqué parce que où nous sommes allés, puisque nous sommes allés à l'intérieur d'Afghanistan dans une colline. Au fait, il y avait une base militaire qui était là-bas, mais la base était fermée. Et notre mission, c'était d'aller sécuriser cette base-là pour la réouverture. Donc, quand nous sommes allés, nous étions les premières troupes à être sur le terrain. Ça veut dire que nous avons passé, c'était ma première fois, de faire, je dirais, 3 semaines sans se laver. 3 semaines sans se laver, on utilisait les baby wipes là. C'est là que j'ai vu que c'était pas facile si on est dans la réalité. Et aussi, on mangeait les MRNs, Les autres comprendront, en fait, c'est de la nourriture de l'armée qui est faite pour les conserves que nous mangeons. Mais on a mangé ça pendant un mois. Mais c'est parce que nous sommes dans une condition, sinon normalement, selon la régulation, on ne peut pas manger ça shred comme ça pendant un mois. Donc, il y avait les constipations et tout, on ne se lavait pas. Et bon, c'était dû parce qu'il y avait des mines, on a perdu des gens. La grande majorité des gens qu'on a perdu, c'était souvent les gars tombaient sur des mines, des trucs comme ça. Donc, c'était vraiment une expérience qui n'était pas du tout facile. Mais bon, on remercie le bon Dieu du fait d'être revenu sain et sauf, c'est ce qu'on peut dire. Donc, c'était vraiment ma première expérience de voir du sang et tout ça. Vraiment, on était vraiment, comme on le dit, on était sur le terrain. Et bon, grâce à Dieu, on est vivant, donc on ne peut que dire merci au Seigneur.
Voilà, on va passer la parole à Komi Afeche. Donc, vous avez plutôt été du côté de Djibouti et au Burundi. Racontez-nous comment les choses se sont passées pour vous.
Oui, d'abord, personne dans l'armée ne choisit vraiment ses missions. Ta mission dépend de ton unité, de ton allocation et de là où le gouvernement a besoin que ton unité se déploie. Donc moi, j'étais dans le régiment des affaires civiles et des opérations psychologiques. Donc nous avons des missions continuelles en Afrique. Donc Djibouti est l'une des bases, la toute unique base de l'armée américaine sur le continent africain. Donc je suis arrivé à Djibouti en 2014. Notre mission se résume vraiment à établir des bonnes relations entre le gouvernement ou bien l'armée américaine et les autorités civiles de Djibouti et de Burundi. Aussi, quand j'étais à Djibouti, l'une de nos missions, c'était d'aider les troupes de l'Union africaine qui allaient en Somalie. Donc, une partie de notre travail consistait à les enseigner certaines techniques que nous avions maîtrisées et à faire que les conflits qui sont en Somalie se résument plutôt pacifiquement. Donc, je suis arrivé à Djibouti et c'est la même chose que j'ai fait au Burundi. Ma mission était mission d'assistance, de négociation, de discussion, de préparation des troupes africaines qui allaient en Somalie.
Les vétérans ne sont pas outillés que pour la guerre. Ils sont aussi très actifs dans plusieurs domaines. Parlons un peu de vos activités lorsque vous n'avez pas le doigt sur la gâchette. Mais avant cela, permettez que je vous donne quelques chiffres sur les combattants. Il y a plus de 17,4 millions d'anciens combattants aux États-Unis, selon le Bureau du recensement américain. 1% des anciens combattants sont des femmes. 5,9 millions d'anciens combattants ont servi pendant la guerre du Vietnam. 7,8% d'anciens combattants ont servi à l'époque de la guerre du Golfe. Environ 240 000 des 16 millions d'Américains qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale étaient encore en vie en 2021. Et enfin, 933 000 vétérans ont servi pendant la guerre de Corée. Donc, je disais, quand vous n'avez pas le doigt sur la gâchette, qu'est-ce que vous faites d'autre, Raoul Kedi? Vous vous illustrez beaucoup dans le domaine des affaires. Vous essayez de créer, si j'ai bien compris, des connexions entre les États-Unis et d'autres pays, notamment en Afrique. Parlez-nous de cela, si vous pouvez, en une minute, parce qu'on tire malheureusement à la fin de cette émission.
Yeah, en tant que fils d'Afrique, aujourd'hui naturalisé américain et vétéran de l'armée, je pense que je peux servir de pont pour faciliter les échanges et échanges économiques, quelque sorte aussi diplomatiques entre les États-Unis et l'Afrique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mal négociées par le passé, il y a beaucoup de choses dont les Américains n'arrivent pas à comprendre, et quelqu'un qui est dans cette situation comme moi pourrait être un bon pont entre les deux.
Komi Afeche, vous, c'est plutôt la littérature qui vous passionne, de même que le coaching. Parlez-nous-en.
Oui, je suis auteur du livre que j'ai publié en 2018, appelé « À la poursuite de mon rêve » en français, ou bien « Chasing my dream » que j'ai publié sur Amazon et sur d'autres plateformes. Dans ce livre, j'ai essayé de narrer mon expérience et donner des conseils pour les jeunes qui viennent d'arriver, nos petits frères, nos enfants qui naissent ici. Je suis aussi dans le coaching de tous ceux qui cherchent à peut-être améliorer leur vie aux États-Unis, parce que ça fait 17 ans que moi je suis là. Je sais que j'ai appris certaines choses que je partage sur les plateformes, les réseaux sociaux pour motiver, encourager notre jeunesse ou bien d'autres personnes qui sont à la recherche de repères. Les États-Unis étant un pays où l'information est vraiment, vraiment importante, j'essaie de fournir des informations fiables, vérifiées, pour pouvoir aider aussi notre communauté.
Ouedraogo Seni-Jacques, vous poursuivez vos études, mais également vous faites quelques petites affaires.
Ok, actuellement je poursuis mes études. J'ai déjà eu un associé l'année passée en génie civil. Actuellement je fais du management, construction management technologique, parce que je vois que ça c'est un truc que je veux exporter en Afrique, parce qu'en Afrique c'est un pays qui est en plein développement de construction et tout, et souvent on voit que les choses sont mal faites, il y a des buildings qui se font, c'est parce que les gens ne respectent pas ou bien peut-être qu'ils n'ont pas acquis vraiment la connaissance nécessaire pour cela. C'est dans ça que je me focus. Mais au-delà de ça, je suis un peu dans le business, un peu du transport, parce que j'opère un peu dans le quinquet. Je ne sais pas si vous connaissez le quinquet, c'est la production, les éléments qu'on utilise pour produire le ciment. Donc je suis là-dedans un peu, et aussi souvent je fais partie des pneus que j'achète depuis l'Europe et j'essaie de revendre ça en Afrique. Donc c'est un peu la vision que nous avons aujourd'hui, c'est vraiment se focusser, voir quel apport nous pouvons apporter à l'Afrique du fait que nous sommes ici, on a acquis beaucoup d'expérience qui peut vraiment aider au développement de l'Afrique. Et le développement de l'Afrique, bien sûr, va passer par ses fils et ses filles. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce point-là. Merci.
Voilà, on va faire un dernier tour de table. En 30 secondes, chacun de vous, dites-nous ici, aux États-Unis, quels sont les avantages qu'il y a à joindre l'armée? Comment joindre l'armée? Et puis, est-ce qu'il y a une petite histoire qui vous a marqué en tant que vétéran, soit dans le champ de guerre ou dans la vie, notamment en termes de reconnaissance des gens? En 30 secondes, Raoul Kedi, je commence par vous.
Oui, je pense qu'en tant que bénéfice, il y a le médical dont tu acquiers à vie. Et pour certains qui sortent avec disability, où ils ont aussi ils ont d'autres avantages, une pension et tout le reste. Moi, je dirais ce qui m'a marqué dans l'armée, mon passage en Irak. Pourquoi? Parce que je pense que c'est des amitiés qu'on construit pour toujours, parce qu'on se rappelle de tout ce qu'on a vécu ensemble, ces moments difficiles. Mais aussi d'avoir vécu certaines expériences, de voir, de comprendre que la vie est aussi facile. On peut la perdre d'un matin, parce que quand on voit qu'on se lève, on mange, on vit ensemble quelques minutes après. Et quand on voit un corps versé de sang qui est mort, on comprend que la vie, rien ne vaut la vie, mais la vie est précieuse.
Komi Afetché, vous, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'armée? Un petit conseil, les avantages?
Oui, moi, je continue mon service dans l'armée. Les avantages, si quelqu'un a sa green card et ne veut pas attendre 5 ans pour obtenir la nationalité, l'armée est une porte qui peut t'aider en ça. Dans l'armée, il y a l'assurance médicale que nous tous nous souffrons des fois ici. Si tu n'as pas un bon boulot, aussi les avantages tels que pour l'éducation, l'armée te permet d'avoir ton bachelor et plus sans vraiment dépenser. Donc ici, il y a aussi le VA loan pour ceux qui veulent acheter leur maison sans faire de down payment. Donc mon conseil à tous les jeunes qui vont écouter ceci, si tu es aux États-Unis, si tu veux un peu faire avancer ta vie rapidement ou bien changer les choses, découvre l'Amérique par son service militaire, je vous encourage beaucoup à le faire. Sur ce, je vous remercie tous pour cette émission.
Ouedraogo Seni-Jacques, votre conseil?
Ah, ok, les avantages, il y en a, les bénéfices, il y en a énormément. Bon, comme le temps est imparti déjà à sa fin, on ne peut pas tous les lister ici. Mais moi, particulièrement, actuellement, je dis que je suis à l'école. Ça veut dire que je ne paye aucun rond. C'est l'armée qui paye l'école. Et aussi, chaque mois, je perçois de l'argent du fait, avec l'armée, du fait que je suis étudiant. Ayant servi dans l'armée, j'ai eu un problème de dos. Donc, basically, moi, j'ai été médicalement déchargé de l'armée. Donc, je reçois quelque chose de l'armée pour tous les malhommés, tout ce qui s'est passé en moi, les blessures ou autres. J'ai une compensation financière pour ça. Donc, ça encore, il y a quoi de plus meilleur que ça? Donc, vraiment, ça en tout cas, il y a plein de bénéfices et vraiment, je suis ravi d'avoir servi cette grande institution et vraiment gentil, plein de profits. Aussi, sur ma carte driver license, c'est écrit vétéran. Deux fois, la police m'a pull over pour des infractions. Bon, c'était pas vraiment des infractions, mais ils ont passé la main dessus parce qu'ils ont vu que j'étais vétéran. Par du fait qu'ils voient ça, ils viennent te dire merci d'avoir servi. C'est-à-dire, les Américains même reconnaissent le fait que tu as servi pour eux, vraiment. Il y en a beaucoup, mais bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis bon, on encourage à ceux qui s'intéressent vraiment de ne pas hésiter, vous n'allez pas regretter. En tout cas, c'est le conseil qu'on peut donner. Et vraiment, merci pour cette plateforme d'échange qu'on a eu aujourd'hui. Grand merci à vous.
Et c'est avec ces propos comme fin à cette émission L'Amérique et vous, présentée par John Lyndon, production Lionel Gaïma. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pourrez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24h sur 24. Au revoir.